Bonjour à tous et bienvenue dans le Rendez-vous Jeu, l'émission bimensuelle où on vous résume toute l'actu du jeu vidéo et de l'industrie du gaming. C'est parti! Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Jeu, l'émission bimensuelle où on vous parle de jeux vidéo, PC, console, mobile, tout ça. On essaye de récupérer toutes les news intéressantes et importantes de ces deux dernières semaines et on vous les redonne à vous avec une petite dose d'analyse et de compréhension de manière à ce que vous n'ayez besoin que d'une seule source d'information générale pour toutes les informations, pour toutes les news de jeux vidéo. Et ça, c'est le Rendez-vous Jeu. Je suis Patrick Béja et je suis aujourd'hui avec mon camarade Jika Loret. Comment vas-tu, Jika ?
Bah écoute, ça va Patrick, un petit peu matinal, hein. Il faut savoir quand même qu'on enregistre, il est même pas 8h du matin là, pour en tout cas en France.
Oui, c'est ça qu'il faut comprendre, parce que voilà, chez toi à Paris, il est 8h, mais chez moi, il est 3h puisque je suis à Kyoto. Ça.
Exactement. Donc si j'ai une voix un peu suave du mec qui vient de se réveiller depuis 20 minutes, mais tout va bien, le café est chaud heureusement.
C'est bien, oui. Non, c'est exactement la voix suave. C'est ce que je me disais.
C'est pour ça que tu me demandes d'enregistrer si tôt. J'ai compris.
La séduction est importante dans le jeu vidéo.
Ouais, tout à fait.
Oui, non, c'est vrai. Je suis effectivement au Japon. Je suis à Kyoto. Je t'avoue que je suis un petit peu désolé et désespéré de voir l'état des salles d'arcade aujourd'hui au Japon.
C'est vrai.
À Kyoto, en tout cas, bon, Kyoto, c'est pas la ville la plus active au niveau de l'arcade qui soit, mais c'est quand même la troisième plus grande ville, je pense, après Tokyo et Osaka. Et bon, il y a une grande salle de jeu qui s'appelle Hacho, qui est une des plus grandes salles, enfin une des salles les plus connues du pays. Mais écoute, c'est vraiment les deux tiers, c'est des jeux de rythme ou des pulikura, des trucs pour prendre des photos mignones, voilà. Et puis il y a une petite partie jeu de combat, mais enfin par exemple il y a même pas Street Fighter 5. Street Fighter 5, je ne l'ai vu nulle part en arcade, mais nulle part.
Est-ce que tout simplement il est sorti en arcade, c'est à se demander, en fait.
Peut-être pas. Mais moi j'étais tellement évident pour moi qu'il était sorti en arcade et
bon. Mais c'est vrai que moi pareil, quand j'y suis allé moi en septembre dernier, j'étais à Tokyo et j'ai trouvé que les pulikula prenaient une place folle. En fait, t'as pulikula jeu de rythme et effectivement quelques jeux de méca et des sortes de grosses installations d'arcade, mais les jeux d'arcade à l'ancienne, c'est vraiment c'est moribond quoi.
C'est ça, il y a une nouveauté par rapport aux deux ans, quand j'y étais il y a deux ans, c'est qu'il y a des machines qui font plein de jeux à la fois en fait, donc tu choisis le jeu, mais bon, c'est donc en fait il y a plusieurs jeux, chaque constructeur visiblement a ce type de truc. Il y avait Capcom, il y avait, c'est Altus je crois, toutes ces séries de jeux. Et bon, voilà, il y a quand même ça. D'un autre côté, il y a des Tekken 7 un petit peu partout avec les connexions en ligne qui marchent très très bien.
Oui.
Donc
c'est vrai qu'ils ont des choses qu'on n'a pas nous là-dessus.
Bah en même temps, c'est comme une console hein, quand tu joues en ligne, là c'est juste qu'ils ont connecté leur machine d'arcade, donc tu joues dans la salle, tu peux jouer contre quelqu'un qui est à côté de toi, mais tu peux plutôt généralement ce qu'ils font, c'est que tu joues contre quelqu'un qui est très loin.
Très loin. Ouais, c'est rigolo ça.
Donc mais bon, c'est vrai que moi à la grande, bon, c'était il y a presque 20 ans, 15 ans maintenant, mais c'était à l'époque où il y avait que des jeux de combat partout et c'était ça les salles d'arcade,
bien sûr,
c'était.
C'est sûr.
Mais bon, il y a
encore du monde dans salles d'arcade quand même.
C'est encore fréquenté. Bah oui, il y a un peu de monde, j'y suis pas trop allé non plus, il y a un petit peu de monde. Je pense qu'il y a pas évidemment, il y a moins de monde qu'à l'époque quoi, mais j'avais l'espoir que l'hémorragie s'arrêterait si tu veux et visiblement c'est pas tout à fait le cas. Donc, ouais, c'est, bah, voilà, c'est, la salle arcade.
Il faudra faire un jour une émission entière sur le Japon, parce qu'il serait qu'aujourd'hui, ils ont un rapport aux jeux vidéo qui a tellement évolué. Ouais. On a l'impression qu'ils jouent plus que sur leur portable ou leur, éventuellement leur console portable, quoi. Enfin, même à la maison, hein. Quand tu vois le marché de la console de salon, c'est pas foufou, hein. C'est pas dingue, hein.
C'est sûr. Et, la PS4 commence à se redresser un petit peu, là. Mais, ouais. Elle a mis un moment, hein, pour une console de Sony qui est, pourtant le constructeur historique, au Japon par rapport à Microsoft. Bon, c'est sûr que la Xbox One n'existe même pas au Japon. Enfin, elle est tellement minime que ça compte pas. Mm-hmm. Mais ce qui est sûr, c'est que plutôt que ça, ils jouent plutôt sur leur portable. Avec, ce qu'on peut le comprendre, parce qu'ils passent tellement de temps dans les transports et puis les maisons. Ils vivent beaucoup avec toute la famille, parfois même avec les grands-parents, dans des espaces relativement restreints. C'est sûr que le portable étant plus personnel, ça. C'est plus facile de passer du temps dessus, quoi. Mais
ouais, exactement.
Donc bon, voilà pour le petit compte rendu rapide du Japon. C'était
écoute, c'est parce que j'aimerais vraiment être à ta place là, tu vois.
Bah écoute, oui, non, ça c'est sûr que je suis, tu vois, là je suis installé dans une petite pièce en tatami, comme le savent les gens qui ont écouté le tout dernier rendez-vous tech. Ouais. Toujours assis, j'essaye d'être aussi à l'aise que je peux, aussi confortable que je peux. Et c'est effectivement, bah c'est un petit peu magique de passer
la
du temps ici.
La cérémonie du thé juste après, tout ça, quoi.
Ouais, pas exactement, mais ouais. Je bois quand même un peu d'eau pour me rafraîchir la gorge. Et puis, on va quand même parler des sujets qui vont nous occuper aujourd'hui. Et principalement, un petit tour par la réalité virtuelle qui, enfin, après des mois et même des années de discussion, l'Oculus Rift, lui, est sorti. Le HTC Vive, je sais même plus quand il sort. Il est sorti il y a une semaine, je crois.
Il est sorti
il y a
à peu près une semaine, ouais.
Et donc on a les premières impressions qui commencent à arriver. J'ai l'impression que en fait, bon, toi tu as testé la version que vous avez depuis une petite semaine, je crois, enfin 2 semaines pour l'Oculus.
Semaine, ça fait pas une semaine qu'on l'a là.
Ouais, d'accord. Et donc tu vas nous dire ce que t'en penses, mais moi l'impression que j'ai à en lire toutes les reviews, c'est quand même un petit peu toujours la même chose, que ce soit pour le HTC Vive ou pour le Oculus Rift, et même à vrai dire d'une certaine manière pour le HoloLens que certains ont eu l'occasion d'essayer il y a quelque temps à la conférence Build de Microsoft, c'est des trucs super, le matériel est génial, c'est des expériences intéressantes, mais au niveau des jeux et des applications et de ce qu'on peut faire avec, ça a pas l'air d'être encore vraiment ça. Ça a l'air d'être un petit peu, ça manque de killer app, quoi. Donc, je sais pas si toi tu es d'accord ou si.
Ouais, globalement, c'est vrai que je vais pas avoir un avis très différent de ce qu'on a pu lire un peu partout. Là, on est un peu sur genre les jeux de lancement de la PlayStation 2, tu vois. Enfin, c'était je compare ça un peu comme à une nouvelle console, parce qu'à chaque fois qu'il y a une nouvelle machine qui arrive, une nouvelle génération de consoles, les jeux qui sont proposés sont loin d'être les meilleurs jeux. Là, on en est là. C'est-à-dire que l'Oculus Rift, il y a quand même pas mal de jeux. Enfin, il y a peut-être une dizaine de jeux qui ont été pensés juste vraiment pour le lancement de l'Oculus Rift. Et ils ont essayé de varier. Il y a de la plateforme, il y a de l'action, il y a des jeux de combats spatiaux, etc. Mais il y a aucun truc qui te dit au-delà de effectivement d'une expérience hyper immersive où vraiment t'es vraiment dedans, qui te dit ok, là je peux passer 15 heures sur ce jeu parce que le jeu, au-delà de la techno, le jeu est génial. On va pas se mentir. Après, on en est encore une fois au début. C'est une nouvelle plateforme qui vient d'arriver, même si ça fait longtemps qu'on en entend parler, c'est vrai. Il y a encore quand même, c'est une plateforme qui est encore jeune. Chez nous, par exemple, pas mal de gens l'ont essayé. La techno fonctionne, le tracking notamment. Donc là, je parle de l'Oculus Rift. Hein. Le tracking de la caméra est extrêmement impressionnant parce qu'on peut vraiment complètement s'immerger dans un monde virtuel, s'approcher, circuler d'un objet, le contourner. On peut presque marcher un petit peu même. C'est vraiment bien. Par contre, il y a encore des soucis pour moi de définition et c'est vrai qu'ils sont présents.
Ah, c'est vrai, même sur l'Oculus Rift, qui a pourtant une résolution assez élevée sur son, sur ses écrans.
Et oui, c'est du 2160 par 1200, je crois. Et, mais c'est pas suffisant. Mais c'est pas suffisant parce que avec les lentilles et le fait qu'on ait l'œil collé à l'écran, et bah, qu'on regarde de loin, c'est flou, il y a une grille. Et ça, après, ça dépend des jeux. Il y a des jeux qui sont quand même bien, qui gèrent plutôt bien ces effets-là parce que le moteur graphique fait en sorte que ce soit plutôt lisse. Et il y a certains jeux comme Project Cars, par exemple, qui sont vraiment pas beaux, quoi. Et j'ai des collègues, ils ont été hyper, quelques collègues, la plupart sont bluffés, hein, mais d'autres qui l'essayent, sont hyper déçus parce qu'ils disent, mais le rendu est dégueulasse. Alors, ils exagèrent un petit peu, mais c'est vrai que c'est là-dessus, on a encore un petit souci d'immersion, quoi.
Alors, j'imagine, s'ils trouvent que la résolution est pas assez bonne sur un Oculus Rift, sur un PlayStation VR,
on verra, mais oui, sur un PSVR, ça risque d'être pire, quoi, c'est sûr.
Bon, on est un petit peu négatif en des temps. Je dirais qu'on est prudent plus que négatif, mais est-ce qu'il y a quand même un effet waouh, même si certaines personnes l'avaient déjà essayé? Alors, là, tu as eu le temps. Qu'il y a du bon quand même, j'imagine.
Oui, oui, non, mais bien sûr. Après, clairement, en termes de construction, de finition, le produit est super. L'appareil s'installe très facilement, ça fonctionne bien. Et puis, moi hier, j'ai lancé donc un jeu qui s'appelle Adrift, qui est un jeu en fait qui est où tu joues un astronaute à la première personne, qui est un peu comme Gravity. C'est le Gravity, le jeu, quoi.
C'est comme le film Gravity.
Voilà. Il y a eu un accident spatial au-dessus de la Terre, Toi, t'es dans l'espace, tu dérives et tu dois t'orienter pour survivre. Là, c'est quand même assez bluffant. C'est-à-dire qu'on est vraiment hyper bien immergé quand t'es là-dedans, quand tu flottes au-dessus de la Terre avec les débris de ton vaisseau autour de toi, c'est quand même assez fantastique.
Ça veut dire, est-ce qu'il y a des moments où tu te retournes un peu et puis tu vois la Terre en dessous? Et,
oui, c'est ça.
Et t'as le moment où t'as l'impression d'y être vraiment comme on n'a jamais pu l'avoir avec une télé, quoi.
Ouais, ça c'est sûr, ça c'est sûr. Là-dessus, il y a ça, et il y a aussi d'autres types de jeux qui ont une façon très intéressante de représenter l'action, qui ne sont pas à la troisième personne. Par exemple, un jeu comme Chronos, qui est un jeu d'action-aventure, un RPG. Avec des caméras fixes où on voit le personnage donc à la troisième personne, là on est plus dans une sorte de théâtre, on est complètement immergé dans le décor, donc on peut regarder autour de soi, on peut regarder le décor autour de soi qui est gigantesque, qui est vraiment très impressionnant, et en plus contrôler son personnage comme un petit personnage réel, quoi. Et ça c'est assez fantastique aussi, ça rend très très bien. Donc voilà, il y a quand même des super expériences, il y a des super idées. Après, on est sur première génération, donc effectivement, pour le moment, les jeux de lancement, ils sont pas incroyables. Et puis, effectivement, j'insiste bien là-dessus parce que ça a été dit, mais c'est vrai que l'absence de motion control enlève carrément une couche immersive. C'est évident.
Ah oui.
Quand tu as essayé.
C'est vrai que sur l'Oculus Rift, on n'a pas de motion control encore parce que les touch controllers ne sortiront que cet automne. Par contre, sur le HTC Vive, c'est le cas, on l'a déjà.
Voilà, sur le Vive, c'est le cas, et c'est vrai que ça fait une sacrée différence. Alors évidemment, le motion control, c'est sympa, mais on se souvient des jeux qui sont sortis sur le Move ou la Wii, on les a vite oubliés. Là, on verra. Mais ne serait-ce qu'en termes d'interface, pouvoir interagir vraiment avec tes mains. Enfin, tu vois, il y a plein de démos Oculus Rift qui sont super, mais où il manque le fait que tu puisses toucher, enfin avoir l'impression de toucher, quoi. Effectivement, le casque est fourni avec un pad Xbox One, donc on est vraiment sur une console. J'ai vraiment l'impression que c'est une nouvelle console parce qu'il y a un store, propriétaire. C'est vraiment, ils ont créé un écosystème derrière le store propriétaire. Ça me plaît pas trop parce que du coup c'est assez compliqué d'utiliser des applications qui viennent pas du store.
Oui, d'ailleurs on a quelques développeurs qui s'en sont plaints, et notamment Tim Sweeney d'Epic qui était pas content que Microsoft fasse la chose avec Windows, et du coup Oculus c'est le même problème, il faut activer une option pour pouvoir installer des applications d'ailleurs que du store, donc ça ferme un peu le système, effectivement.
Voilà, et même au-delà de ça, il y a des moments, effectivement, il y a des jeux Steam qui fonctionnent, d'autres qui fonctionnent très mal, enfin c'est un peu... Mmh. Moi, ce qui me fait peur, c'est ça, c'est le côté, tu vas avoir ton Vive ou ton Oculus et ça va être le bordel, quoi. Bon, on verra à terme. Mais, alors, évidemment, moi, aujourd'hui, je sais pas si c'est la question qu'on doit se poser, mais est-ce qu'on lâche 700 euros pour acheter un Oculus? Et je sais pas, enfin pour le moment je me risquerai pas de donner une réponse, mais enfin globalement je suis pas sûr parce que ça reste quand même cher. Il faut peut-être attendre qu'il y ait une expérience complète avec les Oculus Touch, peut-être attendre un catalogue un peu plus
mais du coup ça sera sexy. Un peu plus cher avec les Oculus Touch,
oui, mais enfin il faudra voir le prix des Oculus Touch, mais on peut espérer aussi une baisse de prix, tu vois, du produit. Bon, pas avant un an, c'est évident. Mais si dans un an, il y a un catalogue sympa avec des Oculus Touch et des vraies expériences, là, ouais, ce sera sans doute intéressant. En fait, la techno est, pour moi, je trouve toujours aussi fantastique. Mais la techno est jeune, tout simplement. Hein. On a l'impression que ça existe depuis longtemps, mais c'était que des versions de développement avant. Donc,
bien sûr, oui. Voilà. Non. Et puis c'est un petit peu ce qu'on dit depuis le début de toute cette histoire. La sortie des produits ne va être que le début de l'apprentissage que vont faire les développeurs de qu'est-ce qui peut être intéressant là-dedans. Je me répète, hein, je le dis tout le temps, mais c'est hyper important de savoir que tout ça n'est effectivement qu'un début. La sortie des produits n'est vraiment que le tout début de l'aventure, quoi, et d'essayer de comprendre si c'est intéressant ou pas.
Et puis voilà, et puis c'est un cercle vertueux, c'est-à-dire que si ça se vend, s'il y a un marché, bah les développeurs vont s'y intéresser, donc vont faire des bons jeux. Enfin voilà, ça va dépendre aussi du succès quand même de cette première génération, même si c'est apparemment sûr. Ils sont plutôt satisfaits, mais parce que forcément il y a tout ce qu'on appelle les early adopters, les gens qui sont hyper technophiles et qui ont de l'argent et qui de toute façon paieront même s'il y a pas de contenu. Donc voilà, enfin bon.
Ouais.
Je m'inquiète pas, mais on n'en est pas. Effectivement, il va falloir peut-être attendre un an, deux ans, un peu plus pour avoir sans doute un gros succès commercial et commencer à avoir des. Après, c'est quand même une technologie qui fait rêver parce que tout le monde en parle, tout le monde. Enfin, je veux dire, les grands quotidiens font leur une dessus. Voilà, ça fait rêver. Ça fait rêver. Sauf que pour le moment, ça reste un corps.
Faut voir si ça restera un rêve. Fantasme.
Voilà, c'est ça.
Ouais, moi, comme je le dis là encore souvent, je pense que Sony est bien positionné pour ça et contrairement à Oculus ou même à HTC, je pense que Sony ne peut pas se permettre autant de sortir un produit qui n'aurait pas au moins deux ou trois expériences convaincantes. Donc, je pense que à l'automne déjà, on y verra un petit peu plus clair. Mais il y a HTC qui a visiblement commencé à attaquer un autre des problèmes de la commercialisation de ces machines, qui est le fait de pouvoir les trouver dans le commerce, dans les rayons, et ils auront au moins aux États-Unis une présence dans certaines boutiques physiques. Donc ça, c'est déjà pas mal pour que les gens puissent tester, essayer ces produits. Enfin, le HTC Vive. On a aussi une rumeur selon laquelle Sony serait en train de considérer la possibilité d'amener... Enfin, c'est même pas une rumeur, en fait. C'est officiellement, Sony a dit, ouais, on pense à la possibilité d'avoir le PlayStation VR compatible PC. Alors, bon, ça n'engage à rien, hein. Dire on pense que peut-être, ils vont peut-être attendre de voir comment ça se passe avec la PlayStation, enfin comment ça se vend au moment de la sortie en octobre, et puis après voir ce qu'ils vont faire, quoi.
Ça montre qu'ils sont quand même confiants parce qu'effectivement ils ont une position hyper confortable. Sony arrive après, enfin hyper confortable. Ils arrivent après tout le monde dans le sens où ils vont pouvoir éprouver un peu la techno. Ils vont sortir un truc un peu moins cher, effectivement. A priori moins technologique, et ils ont 40, enfin je sais plus combien, 36 ou 40 millions de PlayStation 4 vendus. Et de toute façon, je pense que si c'est pas eux qui le font, c'est clair que les hackers et tous les gars, enfin voilà, tous les gens calés, ils vont récupérer le PlayStation VR et ils vont le faire fonctionner sur PC parce que c'était le cas pour Kinect, c'était le cas pour tous ces trucs là. Donc de toute manière, je pense que de toute façon, tu pourras l'utiliser sur PC.
C'est vrai, j'avais même pas pensé à ça, mais donc,
autant que ce soit eux qui rendent ça possible, quoi.
C'est vrai. Et à côté de ça, on a effectivement la question des développeurs qui se pose avec le Eve Valkyrie, qui est l'un des jeux de l'Oculus, l'une des killer apps de l'Oculus, qui va arriver sur HTC Vive aussi cette année. Ce qui tendrait à laisser penser que, moi, je pense que tous ces développeurs, ils ont besoin d'avoir un petit peu plus de bases installées que les machins qui sont vendus jusqu'ici. Et donc, ça m'étonnerait qu'à part les produits first party développé par Sony, on ait beaucoup de jeux qui soient exclusifs à l'une ou l'autre des plateformes pendant très longtemps, quoi.
Bah c'est ça, en fait, effectivement, quand tu vas sur l'Oculus Store, tu retrouves quand même énormément de jeux qui sont aussi sur Steam, comme Adrift ou Project Cars et Dangerous, tous ces trucs-là. Bon, là pour le coup, c'est pas des jeux qui ont été développés spécialement pour ça, mais Eve Valkyrie effectivement est que sur Steam, est que sur l'Oculus Store. En revanche, quand tu vas sur Steam et que tu sélectionnes la catégorie réalité virtuelle et que tu installes tes jeux, tu peux souvent choisir de le lancer effectivement soit avec en mode Steam VR, donc avec le Vive, soit avec un autre casque de réalité virtuelle. Donc la grande majorité des jeux qui sont aujourd'hui compatibles VR avec le SimVR sont aussi compatibles Oculus. Ce qui sera, j'espère, le cas plus tard, parce qu'effectivement, ce serait vraiment pénible et débile de rendre certains titres extrêmement exclusif parce que le marché est pas suffisamment important pour qu'on puisse se permettre d'avoir des exclus comme ça peut être le cas sur console quoi.
Bon, on a aussi deux petites news rapides sur les machines Sony et Microsoft, puisqu'on parle de nouvelles possibilités. La PlayStation 4 plus puissante, selon certaines sources, notamment le Wall Street Journal, qui est assez sérieux, serait annoncée a priori avant le lancement de l'Oculus, du PlayStation VR, donc avant octobre. Peut-être une annonce donc à l'E3, on avait évoqué cette PlayStation 4 un peu plus puissante qui permettrait de faire de la 4K notamment, et peut-être d'améliorer les performances du PlayStation VR.
Ouais, c'est vrai que ça semble probable. Après, je sais pas, ce serait quand même étonnant, ce sera la première fois qu'ils le font, parce qu'autant refaire une console avec un nouveau design, ils le font à chaque fois. Là, carrément balancer une console plus puissante, c'est, je sais pas, j'ai un peu peur de la réaction aussi des gens, comme nous, quoi, qui ont une PS4 classique et qui vont se dire, ah, putain, mais j'ai pas envie de racheter une PS4, quoi. Enfin.
Mais moi, je pense que ça changera pas très peu ou vraiment pas grand chose pour les gens, pour les jeux PlayStation 4 normaux. Ça sera uniquement pour les jeux VR et puis pour avoir de la 4K, quoi.
Mais les jeux VR, tu vois, enfin, pour les gens qui sont intéressés par le PlayStation VR, tu vois, j'ai l'impression qu'ils sont, enfin, c'est pas qu'ils sont en train de nous la faire à l'envers avec le prix du PlayStation VR, mais déjà, c'est 400€, mais il faut rajouter 100€ à peu près pour la caméra qui est obligatoire. Les bundles coûtent quand même. 60, pardon. Les bundles coûtent quand même assez cher. Enfin, voilà, la facture monte à 500 dollars, 500 euros. Si en plus ils nous recommandent de racheter une console, là, c'est autant acheter un Vive, tu vois. Enfin.
Oui, sauf que le Vive, il faut le. Enfin bon, bref, on va pas refaire le débat. Il y a effectivement 60 000 possibilités, et puis on jugera quand la PlayStation 4K arrive, si elle arrive. Et l'autre news, c'est que la promesse de Microsoft de rendre toutes les consoles Xbox One transformables en dev kit a enfin été réalisée il y a deux semaines. Et donc, il est possible de transformer votre Xbox One en kit de développement Xbox One. C'est pas un kit de développement complet. On a visiblement à disposition à peu près la moitié de la puissance de la console. Donc, si on est sérieux dans le développement et qu'on veut développer des jeux très puissants, il faut toujours acheter un kit de développement qui coûte plusieurs milliers de dollars ou d'euros. Mais voilà, si vous voulez vous amuser un petit peu apprendre à développer et tester sur Xbox One. C'est possible, donc allez-y, amusez-vous comme des fous.
C'est une preuve de plus que Microsoft essaye de trouver des nouveaux usages pour sa Xbox One, qui, on le sait, se vend pas extrêmement bien, et puis surtout se rapproche de plus en plus d'une plateforme d'un type PC, quoi, où de toute façon tu peux te développer gratuitement. T'as l'impression qu'ils veulent vraiment fusionner cet univers Windows Xbox et qu'il y ait quasiment plus de différence, quoi.
C'est vrai. Bon, ça, c'était une promesse qui était là depuis l'annonce de la console, si je ne m'abuse. Oui. Donc, ça, c'était même encore avant leur.
Disons que ça colle avec toutes ces annonces, voilà, les exclus qui sont plus vraiment des exclus, tout ce genre de choses.
Voilà donc pour la petite partie réalité virtuelle et plus. On a ensuite un petit Blizzard Corner, comme j'aime bien les faire quand il y a des jeux, plusieurs news Blizzard. Vous savez que j'ai une affinité particulière avec cette société, notamment la date de sortie de Whispers of the Old Gods, la nouvelle extension du jeu Hearthstone, qui sera a priori lancée le 26 avril, dans deux semaines maintenant. J'imagine que tout le monde est très excité, enfin tous les joueurs en tout cas, parce que c'est un gros changement dans le jeu Hearthstone. Tu joues encore à Hearthstone, toi, ou plus du tout?
Je n'ai jamais joué à Hearthstone, en fait.
Ah, jamais, d'accord, ok.
Tu sais, je crois que je t'avais raconté que j'étais tellement mauvais que j'arrivais pas à passer le tuto, donc.
Ah oui, ça, il faut le faire quand
donc,
même.
Voilà, non, mais bon, j'exagère un peu, mais je me suis jamais mis dedans, parce que c'est typiquement le genre de jeu dans lequel j'aurais aimé me plonger, comme plein de gens l'ont fait, mais pas forcément le temps, pas la motivation, puis pas forcément un affect particulier pour ce genre de jeu, mais tout simplement, quoi.
Bah écoute, moi j'ai déjà précommandé les 50 packs de cartes, donc j'attends le 26 ouais, avril avec impatience.
Non mais c'est quand même incroyable. Enfin de toute façon, ça fait des années bah, depuis que c'est sorti qu'on en parle, mais c'est vrai que ce succès est tellement inattendu. Moi à chaque fois, je suis toujours pas forcément surpris, mais admiratif de la façon dont ils ont géré Hearthstone. Quoi.
C'est sûr. Bah c'était dingue, un petit peu pour l'avoir vécu de l'intérieur, ouais, puisque je travaillais là-bas à l'époque où le lancement a été fait. Tout le monde pensait qu'on avait un bon jeu entre les mains, mais je pense pas qu'on s'attendait, que qui que ce soit s'attendait à une explosion aussi importante. Mais autre jeu qui a peut-être un petit peu moins de succès, mais qui est quand même assez comment dire intéressant aussi, c'est Heroes of the Storm, dans lequel Tracer, un personnage de Overwatch, donc un autre jeu Blizzard, va arriver. Alors attendez, c'est quelle date? Le 19 avril, c'est ça. Pour les gens qui ont précommandé le jeu sur, pour les gens qui ont précommandé Overwatch, ils auront accès à Tracer dans Heroes of the Storm le 19 avril, donc dans une semaine à peine. Et pour tout le monde, Tracer sera en vente le 26 avril, dans Heroes of the Storm toujours. Donc un mois avant la sortie du jeu Overwatch lui-même. Et d'ailleurs, entre parenthèses, j'ai regardé la finale de Heroes of the Dorm, qui est l'un des tournois de Heroes of the Storm que qu'organise Blizzard entre des universités américaines pour, et le prix en fait qu'on peut gagner, c'est le fait d'avoir ses frais de scolarité payés entièrement pour le reste de sa scolarité. C'était assez incroyable comme événement.
Je jouais plus pour étudier plus, quoi.
Ouais, un petit peu, ouais. Mais tu sais, c'était marrant parce que aux États-Unis, évidemment, l'université est pas gratuite, et ouais. Du coup, ça a eu un impact énorme sur les familles des élèves qui gagnent ce tournoi, quoi. Donc, on voyait à la fin les gagnants de l'université d'Arizona State qui ont fini tout le tournoi sans se faire battre une seule fois. Mais c'était émouvant à la fin parce qu'il y avait les parents, enfin la mère notamment de l'un des compétiteurs. Ils étaient tous très émus, certains en larmes, etc. Mais lui, il disait à sa mère, maman, voilà, maintenant tu n'as plus à te soucier de payer mon université. Ça se monte à plusieurs dizaines, même presque, si c'est 4 ou 5 ans, ça peut monter à $100,000. Et il disait, t'as plus à te soucier de ça, c'est bon, maintenant c'est payé. Et il a fondu en larmes. C'était vraiment un impact sur les familles, quoi.
Bah, c'était, bien sûr. C'est sûr.
Ouais. Donc moi qui suis pas très e-sport d'habitude, là j'ai de plus en plus de trucs qui m'intéressent là-dedans. Il y a eu une news sur l'un des serveurs privés de World of Warcraft qui s'appelle, comment il s'appelle déjà, je vais retrouver le titre. En fait, les serveurs privés, je suis pas très fan de ce nom de serveur privé. C'est des serveurs pirates, en fait. C'est des serveurs qui sont gérés par des gens de la communauté auxquels on peut se connecter, généralement gratuitement. Et là, la spécificité de celui-là, et souvent ce type de serveur, ont c'est Nostalrius. Voilà, Nostalrius. Et c'était un serveur vanilla, c'est-à-dire un serveur auquel on pouvait jouer à la toute première version de World of Warcraft. Et donc, les avocats de Blizzard ont envoyé ce qu'ils appellent un cease and desist en anglais, un ordre pénal d'arrêter les activités. Et donc, ils ferment ou ils vont fermer le serveur là.
Mais c'est intéressant parce que, enfin, toi, tu peux peut-être en parler un peu plus, mais chez Blizzard, ou peut-être chez les autres, ça reste quand même des pratiques tolérées parce que on est quand même à la frontière du piratage là. Parce que, effectivement, les gens qui jouent à sur des serveurs privés ont acheté leur jeu, mais derrière ne payent pas d'abonnement. Donc, comment légalement une société comme Blizzard voit ce genre de truc en général?
Bah, moi, je sais pas. Enfin, je pense que sans parler pour Blizzard, d'une part, les gens n'ont pas forcément acheté leur jeu, hein. Tu sais, c'est
oui,
pas
en plus,
tu
oui,
peux tout à fait
jouer sur une version pirate, c'est vrai.
C'est ça, tu télécharges le client qui est forcément une version antérieure au jeu actuel. Donc si tu as acheté ton jeu, tu à télécharger la version du client d'aujourd'hui. Et là, sur le serveur Vanilla, il faut une version du client qui est plus ancienne pour qu'il se connecte au serveur qui est plus ancien aussi. Donc non, les gens n'ont pas forcément acheté leur jeu. Généralement, pas du tout. Donc non, c'est clairement vu comme du piratage. Le truc qui est intéressant, c'est que ça permet à des gens qui voudraient jouer à une version antérieure de World of Warcraft d'y jouer. Et c'est des gens qui... Certains peut-être jouent parce que c'est gratuit et qu'ils veulent pas payer. Je suis sûr qu'il y en a beaucoup qui veulent jouer à cette version antérieure du jeu et qui peut-être de toute façon ne joueraient pas à World of Warcraft d'aujourd'hui parce qu'ils veulent jouer. Alors ils sont une quantité imposante. Hein. Ils sont visiblement il y a 100 000 inscrits sur le serveur, ce qui est quand même bon. C'est pas les millions de World of Warcraft,
oui,
mais c'est quand même.
Abonnés, c'est pas grand-chose, mais ça reste quand même une grosse communauté.
Voilà. Ah pardon, pardon. Ils étaient 10 000 au max ensemble, mais 800 000 comptes register de cannes, comptes créés.
D'accord.
Bon, là encore, comptes créés, on ne sait pas très bien ce que ça veut dire en quantité de joueurs actifs, mais c'est, ça veut dire qu'il y a des gens qui ont au moins créé des comptes là-bas. Moi, je comprends forcément ce que fait Blizzard. Je veux dire, c'est une utilisation pirate de leur jeu. Oui, ils vont pas accepter que ça se passe. Ils pourraient fermer les yeux, j'imagine. Mais
c'est même étonnant qu'ils aient toléré ça finalement longtemps, parce que enfin, j'imagine que c'est pas leur première action contre ce genre de truc, mais ils auraient pu mener une vraie guerre contre ça. Et t'as l'impression, bon, ils font un peu ce qu'ils font parce qu'il faut quand même lutter un peu contre ça, mais que c'est pas non plus leur priorité.
Ouais, c'est une fois de temps en temps, ils font le truc, ils ferment un serveur qui est devenu gros, et puis voilà, ensuite les gens se regroupent ailleurs. Et puis je crois que même les gens qui sont responsables de la gestion du serveur disent, nous on veut juste avoir un serveur où on peut jouer à l'ancienne version d'WoW. Et il est clair qu'il y a des gens que ça intéresse, ça. Je pense pas que, bon. Mais Blizzard,
les nostalgiques de WoW Vanilla, ils sont beaucoup aussi. Hein.
Ouais, bah visiblement, ouais. Mais bon, de là, je pense qu'il est facile de se dire, ah oui, mais voilà, c'est parce que maintenant WoW c'est devenu pourri, c'est pour ça que les gens essayent de jouer à Vanilla. Oui, il y a quand même un pas énorme que je ne franchirai pas parce que les chiffres sont quand même différents et puis le fait qu'on paye pas, etc. Mais voilà, c'était à mentionner quand même comme news. Peut-être qu'un jour Blizzard eux-mêmes sortira des serveurs Vanilla, hein, on ne sait pas.
Ah, ce serait drôle, ça, qui ressorte une version de WoW à l'ancienne.
Le problème, c'est que c'est le genre de truc où tu y joues une semaine. Il y a des gens qui sont très intéressés qui vont continuer, mais la plupart des gens se rendent pas compte à quel point c'est vieux et c'est à
après,
changer.
Ce qui serait bien, ce serait qu'ils sortent les WoW Vanilla, mais malgré tout avec les améliorations graphiques d'aujourd'hui, mais quand même avec le système de gestion de quête à l'ancienne et tout quoi.
Ouais.
Parce que moi, ce que j'aimais bien dans les premières versions de WoW, ce qui fait que bon, maintenant aujourd'hui WoW maintenant m'intéresse plus trop, c'est que j'aimais bien le côté tu découvrais l'univers vraiment, fallait vraiment faire un effort de lecture de quête pour savoir où aller, trouver le bon endroit, etc. Aujourd'hui WoW, et comme la plupart des MMO, c'était sur des rails quoi, enfin
ça
c'est devenu un parc d'attractions quoi, et c'est ça que j'aimais bien dans les, enfin moi WoW, la première fois que j'ai découvert WoW et que tu partais à l'aventure, c'était incroyable quoi.
Mais tu sais qu'il y a des MMO, bah bien sûr, mais tu sais qu'il y a des MMO aujourd'hui où tu peux justement, c'est un petit peu plus entre guillemets hardcore, et puis tu pars à l'aventure et tu dois découvrir des trucs. Et ce qui est frustrant, c'est que malgré le fait qu'il y ait plein de gens qui disent ah mais moi je veux pas être guidé, je veux pas avoir les quêtes qui me disent ça, je veux pas être téléporté direct dans le donjon quand on fait un donjon, etc. Ces jeux qui ont une optique un petit peu plus hardcore ne rencontrent pas le succès.
Non.
Donc ça veut bien dire qu'il y a quand même un petit peu de fantasme dans cette idée que on veut un truc comme à l'ancienne.
Ça veut bien dire aussi qu'il y a plus de marché pour le MMO, hein. Ça, enfin quasiment plus.
Oui,
quoi,
ça,
pour le MMO,
oui.
Classique, quoi.
Mais à la limite, c'est un autre problème, tu vois. Ouais. Le fait qu'il y ait ou pas un marché pour le MMO, c'est une autre question que de savoir si les gens veulent un MMO à l'ancienne. Moi, j'ai l'impression que, EverQuest, qui est un MMO à l'ancienne, ne fait pas des millions non plus, tu vois.
Mais c'est vrai, ils
tournent toujours, hein. EverQuest, EverQuest 2, ils marchent toujours, tous les deux.
Oui.
Ils sont là, ils existent, ces types de MMO. Oui, Eve Online, c'est encore même un autre.
Mais ce qui a fait qu'il n'y a plus de marché, c'est aussi parce qu'effectivement, tout le monde a essayé de copier WoW par la suite et quasiment personne n'a réussi quoi. Donc effectivement au bout d'un moment, à force d'avoir 20-30 clones de WoW, les gens se sont lassés de toute manière quoi.
Peut-être qu'il y en aura un qui sortira et qui ramènera la magie de l'origine des MMO sans tout ce qui est un petit peu pénible. Moi j'y crois moyen, mais
ouais, non.
Overwatch, toujours chez Blizzard, le jeu a eu une mise à jour avec le mode compétitif qui a été implémenté, qui pour moi est assez réussi. Il y a des petits problèmes clairement de fignolage à faire avec des combats qui se font avec 5 contre 6 ou ce genre de choses, mais ils ont choisi une méthode que je trouve pas mal, qui est que on doit pour chaque match compétitif attaquer, enfin faire d'abord l'attaque ou la défense et puis l'autre rôle, et le résultat de la compétition n'est déterminé. Enfin, c'est un mode ranked, hein, un mode comment on dit ranked, le mode ranked en français, le mode classé.
Classé, voilà. Enfin, classé.
Oui,
voilà.
Merci, classé. Donc le résultat du changement du classement n'est établi qu'après ces deux combats, et si les deux vous en gagnez et perdez une, ensuite il y a une autre petite partie très rapide pour déterminer le combat. Il y a des petits trucs à gérer, mais je suis content de voir que le mode classé arrive dans Overwatch, parce que c'était pas certain à 100% visiblement. Et moi qui suis très très client d'Overwatch, je me suis plongé là-dedans. Ils veulent faire un mode à la Hearthstone avec un reset chaque mois du classement, et le problème c'est que vu comment c'est maintenant, il faut faire beaucoup 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 trop de combats pour sortir, enfin pour progresser dans le mode classé, donc ça prend beaucoup trop de temps pour un truc qui soit remis à zéro tous les mois. Mais j'espère que ça, ils vont le changer d'une manière ou d'une autre. Mais là, c'est vraiment grind fest, quoi. Donc ça c'est un problème. Mais le système est pas mal foutu. Donc voilà, si vous voulez m'entendre parler plus de Overwatch, il y a le podcast Overwatchers en anglais que vous pouvez écouter. La BlizzCon 2016 a des dates, ça sera le 4 et le 5 novembre, et moi j'ai déjà ma chambre d'hôtel réservée, donc j'y serai cette fois-ci. L'année dernière j'y étais pas,
mais
cette année j'y serai, donc je pourrai vous en parler en direct de là-bas.
Ouais, carrément. T'as un pronostic rapide ou sur ce qui sera annoncé ou pas?
Bah écoute, moi je pense qu'il y aura des nouveautés sur Overwatch qui sera sorti depuis le 24 mai ou le 25 mai. Donc il y aura peut-être un nouveau personnage ou deux et puis un nouveau mode de jeu, ce genre de choses sur Overwatch. Certainement un truc sur Hearthstone qui a du nouveau contenu en permanence. Pareil pour Heroes of the Storm. Mais là, on aura la sortie de Légion, l'extension de WoW qui viendra d'arriver. Donc on n'aura pas grand-chose, je pense. Pas grand-chose sur StarCraft non plus. Par contre, je me demande s'il y aura pas quelque chose au niveau de Diablo. Peut-être.
C'est ce que j'allais te dire. Ouais.
Ah oui, voilà.
J'aimerais bien une nouvelle extension de Diablo.
Alors peut-être une nouvelle extension, peut-être un nouvel épisode de Diablo.
Ah ouais?
Alors, Diablo 4, peut-être.
Diablo 4 date, ouais, commence à dater, hein. Ça fait déjà 5 ans, là.
Le 3, oui, c'était quand? C'était, 2012, non?
2012, ouais, je crois, c'est, ou 2011 ou 2012, je sais plus.
Attends, que je dise pas de bêtises, on va vérifier.
Je crois que c'est 2012.
Pourtant, j'y étais, donc,
Ouais, bravo.
Ouais, non, c'est, franchement, ça, hein. C'est beau. Ouais, 2012, donc.
15 mai 2012, ouais, c'est ça.
15 mai 2012. S'il l'annonce maintenant et qu'il sort en 2017, tu vois, ça fera 5 ans entre les deux jeux. Moi, je pense que c'est possible. Hein.
Oh là, tu viens de me hyper là, ça y est.
Bah, écoutez, on verra.
Moi, c'est vrai que le Diablo, ça reste ma licence préférée chez Blizzard, et je serais hyper content d'avoir un Diablo 4, quoi.
Ouais. Tu joues encore au 3 ou t'as arrêté?
Non. Par contre, je l'ai quand même un peu lâché. Depuis, j'ai joué à d'autres hack and slash, mais j'ai joué quand même à l'extension. J'ai beaucoup aimé ce qu'ils ont. En fait, c'est pour ça que j'ai l'impression que Diablo 3 est pas si vieux, parce que pour moi, le vrai Diablo 3, le vrai bon
c'était
Diablo 3,
Reaper
c'est
of Souls,
c'est l'extension, quoi. Donc bon, s'ils annoncent le 4, c'est cool, hein. Mais déjà une extension, ce serait cool aussi, quoi.
C'est sûr.
Ce serait bien.
Voilà pour les petites news Blizzard et les petites news VR. On va continuer avec une série de news et des impressions sur Dark Souls 3 et un petit peu sur Quantum Break, puisque tu as joué aux deux, JK. Mais avant ça, quand même, un grand merci à tous ceux qui ont laissé un commentaire et 5 étoiles sur le catalogue iTunes. Donc je remercie du fond du cœur Thiefield, Paige, El Pouic Pouic, magnifique nom, Benji50Benji et Alex Bull qui nous ont dit des choses comme un nouveau rendez-vous incontournable, très bon podcast, bonne émission, bon podcast et indispensable. Merci à vous tous. Si vous voulez vous aussi nous aider à gagner en visibilité, mettez des commentaires et des étoiles sur iTunes ou ailleurs, là où vous allez récupérer vos podcasts. Ça serait très gentil de votre part.
Ouais. Je fais un big up à PJ qui est aussi un auditeur de ZQSD. Donc,
oui, il est partout, PJ. Oui, effectivement. Partout, PJ, il y en a quelques-uns, les vrais, tu vois, les hardcore, il y en a quelques-uns qui nous suivent de podcast en podcast.
C'est ça.
Alors, donc, c'est le mois d'avril, il y a des sorties. C'est un petit peu un mois, on va pas dire un mois énorme, mais il y a quand même quelques trucs. Notamment Quantum Break qui est sorti la semaine dernière, Dark Souls 3 qui sort cette semaine.
Demain, ouais.
Oui, demain, c'est ça. Et Star Fox Zero qui sort en fin de mois, le 22. C'est le 22 hein, en France. Je dis pas de bêtises.
C'est ça, ouais.
J'ai tendance à regarder les dates aux
sorties
US.
Sorties Nintendo, je les suis plus trop, donc, mais je crois que c'est ça. Ouais.
Je vais vérifier. Mais, ouais, c'est ça. Mais oui, effectivement, on a donc pas mal de sorties, et notamment Quantum Break et Dark Souls. Alors, Dark Souls y a joué un peu. Quantum Break, tu l'as juste commencé. Peut-être premières impressions rapides sur Quantum Break, et puis on enchaîne sur Dark Souls.
Ouais, enfin, j'en suis qu'au tout début, Quantum, hein. Mais, en fait, pour le moment, je suis pas extrêmement convaincu. Après, c'est qu'au tout début, on va pas se mentir. Donc, j'ai pas vu vraiment la façon dont le temps est géré. Tu sais, t'as des pouvoirs avec le temps. C'est un jeu d'action à la troisième personne où il y a une gestion. Enfin, il y a des sortes d'anomalies temporelles qui permettent de gérer le temps, de stopper le temps, etc. En fait, c'est un jeu Remedy. Donc, Remedy, je remets dans le contexte, c'est les créateurs de Max Payne et de Alan Wake. Donc, c'est des gens qui font des jeux souvent extrêmement bien écrits, extrêmement narratifs, vraiment bien écrits. Pour le moment, pareil, je trouve pas ça incroyable en termes d'écriture et de réalisation et même de scénarisation.
Bah, ce qui est quand même fort sur, enfin, ce qui était censé être un des points forts de Quantum Break, c'était qu'on avait ce mélange entre le jeu et puis les scènes de séries télé en fait, qui étaient filmées en live avec des acteurs, qui mélangeaient le tout. Et ça, tu trouves que ça fonctionne pas?
Bah en fait, là tu vas te foutre de moi, mais pour le moment j'ai pas encore vu de série télé. Enfin, c'est ça qui est bizarre, c'est que franchement j'y ai joué une heure et j'ai vu que. Mais moi je pense que la série télé en fait c'est un truc en parallèle. C'est-à-dire que là en fait sur ma Xbox One il y a le jeu qui est lancé et j'ai aussi un truc qui s'appelle je sais plus quoi série télé. Donc j'ai l'impression que la série télé c'est un truc en parallèle.
C'est pas intégré au jeu.
Mais je ne pense pas. Là, pareil, je passe sans doute pour un gland parce que j'ai pas vérifié.
Tu l'as juste lancé, donc.
Ce que je veux dire, voilà, c'est que d'après ce que je comprends, c'est que c'est une histoire de truc transmédia, donc avec une série télé à côté que tu peux suivre en parallèle de ton jeu. Parce que moi, pour le moment, le jeu, les cinématiques, c'est des cinématiques classiques avec le moteur du jeu qui sont très belles. Là, on va pas se mentir. Hein. En plus, les acteurs, on les connaît, on les reconnaît tout de suite. C'est bien. C'est un boulot. C'est du Remedy. Le jeu est plutôt beau. Après, ça a l'air vraiment, en termes de mécanique de jeu, ça a l'air quand même très classique. Si on a joué à des TPS, si on a joué à Max Payne, si on a joué à des trucs comme ça qui mélangent à la fois le jeu d'action pur, la narration, et puis des pouvoirs de ralenti et tout ça. Voilà, voilà. De toute façon, les reviews sont pas dingues, hein, sur ce jeu. Ouais. Malheureusement, on attendait une grosse killer app.
C'est pas le cas, non. Les gens disent, il y a beaucoup de gens qui disent que le jeu est sympa, compétent, bien foutu.
Oui, oui.
Mais effectivement, c'est pas un incontournable, on va dire.
Moi, je m'y remettrai quand j'aurai fini Dark Souls 3, c'est-à-dire jamais, sans doute. Mais je sais pas, enfin, quand j'aurai passé 50 heures sur Dark Souls, donc on n'y est pas. Mais mais je vais essayer de m'y mettre en parallèle de Dark Souls.
Bah justement, tiens, parlons-en Dark Souls. Donc Dark Souls 3, qu'en penses-tu? Est-ce que tu as un historique avec la série? Est-ce que tu as joué à Bloodborne, et puis quelles sont tes impressions? Elles sont plutôt bonnes, hein. Généralement, j'ai l'impression que les gens sont plutôt convaincus que le c'est pas facile sur un 3 de réussir le coup, mais là il réunit le meilleur en fait de Dark Souls 1 et du dynamisme un petit peu plus élevé de Bloodborne, c'est ça?
C'est ça. En fait, c'est fondamentalement, ce qui est assez fou avec cette série, c'est que depuis Demon's Souls, donc Demon's Souls, Dark Souls, Dark Souls 2, Bloodborne et Dark Souls 3, c'est le même jeu. C'est-à-dire que c'est les mêmes mécaniques, c'est le même système de jeu, c'est voilà, c'est ça. Mais à chaque fois, on trouve ça fantastique parce que il y a un tel génie dans la mise en scène, dans l'ambiance, dans le système de jeu même de combat qui est absolument fantastique. Et à chaque fois, il y a quand même les améliorations suffisantes qui font que l'épisode d'avant est meilleur que l'autre. Alors Dark Souls 2 est considéré comme un peu moins bon parce que c'est vrai qu'en termes de level design, il était moins brillant que Dark Souls et Demon's Souls. Là, Dark Souls 3, il est Takami Miyazaki, qui est le créateur de la série, gère vraiment cet épisode, a vraiment chapeauté cet épisode, et en termes de puissance de d'expérience de jeu, mais moi c'est un jeu qui m'obsède, enfin voilà, c'est un jeu, des fois j'en rêve la nuit, non mais c'est vrai, je fais des longues sessions de jeu, c'est épuisant de jouer à ce jeu parce que le jeu est pas spécialement extrêmement difficile, enfin si le jeu est toujours difficile parce que c'est Dark Souls, mais le jeu est surtout extrêmement exigeant en termes de concentration, en termes de ressenti de combat, ce qui fait que quand tu as joué une heure et demie, déjà, t'es fatigué, quoi, vraiment. Et il n'y a aucune autre série qui, moi, me procure cette sensation. Et ça, c'est assez fantastique. Et le 3, donc, ouais, effectivement, il reprend toutes les bonnes idées des précédents épisodes, pour une sorte de mélange best-of de un peu tout, tout en apportant quand même quelques nouveautés, qui sont toujours hyper, hyper intéressantes, enfin, hyper valables. Et voilà. Et ça crée tout simplement, je vais pas dire l'épisode parfait parce que c'est censé être le dernier épisode de la série. En tout cas, selon le développeur, selon le studio From Software, ils veulent arrêter après cet épisode. Donc, t'as l'impression qu'ils ont tout mis, quoi. Ils ont tout mis dans celui-là. Et ça se sent. Et à la fois, c'est l'épisode aussi peut-être le plus abordable si vous connaissez pas la série.
C'est la question que j'allais te poser plus même que Bloodborne, parce que Bloodborne était relativement accessible, non?
Oui, Bloodborne reste accessible, mais je trouve pour le moment que la difficulté est plus progressive. Je dis pas que le jeu est plus facile, mais on s'en prend moins plein la tronche tout de suite. Et on a plus le temps, on va dire, d'apprendre à maîtriser le jeu pour pouvoir progresser de manière plus fluide et plus avoir ces moments où t'as envie de jeter la manette et d'éteindre la console et d'aller te rouler en boule dans un coin parce que ça fait 10 fois que tu te fais rouler dessus par un boss, quoi.
Mais pourtant, c'est ça qui est un petit peu là. Ça me surprend ce que tu dis parce que c'est la caractéristique de Dark Souls, ça, justement.
Ouais,
donc,
mais je suis pas tout à fait d'accord. Pour moi, enfin, Dark Souls, c'est pas forcément des jeux qui doivent être frustrants. Alors évidemment, ils le sont parce que par moment, c'est des jeux, comme je disais tout à l'heure, qui sont exigeants. C'est-à-dire que quand tu perds, alors les tout premiers épisodes étaient quand même mal foutus, donc il y avait quand même des gros défauts. Là, en termes de prise en main, en termes de fluidité, d'action, les combats sont plus rapides, plus nerveux, tu esquives plus facilement. Donc du coup, quand tu perds, tu sens vraiment que c'est ta faute. En fait, c'est toi qui n'as pas fait attention. C'est un jeu où il faut avancer pas à pas parce que tu sais que n'importe quoi peut te tomber dessus. Mais t'as toujours les moyens de riposter. Et cet épisode-là met particulièrement ça en avant, je trouve, ce qui fait que le système de combat est plus abordable. En plus, si vous commencez avec la classe du chevalier classique, avec le gros bouclier et l'épée, c'est sans doute ce qu'il y a de plus abordable. Et on progresse quand même naturellement. Je dis pas qu'il y a des moments qui sont extrêmement difficiles, mais c'est pour ça que je dis qu'il est plus abordable narrativement parlant également. Il est un peu moins abscon et nébuleux que les autres épisodes où finalement tu comprenais pas grand chose à l'histoire. Là, c'est quand même un peu plus facile à aborder. Non, franchement, si vous connaissez pas la série, c'est clairement l'épisode le plus moderne et à la fois le plus fou, je sais pas si c'est le plus fou, mais il est fantastique en termes de
direction artistique
et direction artistique, c'est incroyable. Si vous aimez la dark fantasy, si vous aimez vraiment, c'est une ambiance à la fois horrifique et médiévale, c'est un bonheur. Après, évidemment, si vous pouvez, jouez-y sur PC, parce que c'est la version qui tourne à 60 FPS en Full HD, comme un charme. Les versions consoles sont belles, hein, mais par contre, c'est vrai qu'il y a des moments où ça souffre un peu. Hein, le nombre d'images par seconde baisse et ça rame un petit peu, mais ça reste quand même tout à fait plaisant. Moi, j'y joue sur Xbox One, je vais pas me plaindre, hein, c'est sûr. Donc, franchement, moi, c'est un jeu que je conseille, même pour ceux qui connaissent pas la série. C'est-à-dire que les fans vont adorer. Ceux qui connaissent pas et qui veulent se lancer dedans, je pense que ça se tente vraiment. Toi, je sais que Patrick, t'as jamais accroché. Je sais pas si t'accrochera plus, mais ça vaut quand même le coup de se faire violence parce que si vraiment tu plonges dedans, c'est un bonheur, quoi.
Mais du coup, moi, en fait, ce que je voulais te demander, c'est par rapport à Bloodborne, qu'est-ce que ça donne ? Est-ce que c'est aussi... Parce que Bloodborne aussi était un truc qu'il était possible d'aborder si on n'avait jamais joué à la série. Est-ce que celui-là est encore plus accessible ? Est-ce qu'il te met encore plus le pied à l'étrier au début du jeu ? Parce que Bloodborne... Même au début, en fait, tu rencontres le premier villageois, bah le villageois, il te met sa faucille dans la gueule et tu meurs, quoi.
Donc mais ça, c'est obligatoire.
Enfin, ouais, c'est, ouais, d'accord. Ouais. Mais donc, mais, est-ce que c'est le cas aussi dans Dark Souls ou est-ce qu'il est un petit peu plus accessible que même que Bloodborne ? Entre les deux, en fait, c'est ça ma question. Ouais, ouais. Les deux qui sont les Souls modernes, Bloodborne et Dark Souls, lequel est-ce que tu recommanderais à un débutant ?
Bah c'est un mélange des deux et c'est pour ça que celui-là je pense qu'il est quand même plus accessible malgré tout que Bloodborne, c'est-à-dire que le début est progressif, t'as des vrais conseils qui t'as des vraies explications sur comment combattre, t'es moins perdu, c'est-à-dire que le souci de qu'on pouvait reprocher donc au précédent et même dans Bloodborne même si c'était un peu moins le cas, c'est qu'il y a des moments où t'étais perdu même dans les mécaniques de jeu, dans les règles de jeu, il fallait les apprendre par toi-même. Là c'est encore quand même globalement le cas, mais la base c'était très bien expliqué, ce qui fait que rapidement tu peux t'en sortir très bien. Et surtout, ce que dans Bloodborne, tout se faisait à l'esquive, c'est-à-dire que ton personnage n'avait aucun bouclier, aucun moyen de parer, et tu devais rouler, enfin esquiver tout le temps. Là, tu peux faire les deux. Même ton personnage type chevalier qui a un gros bouclier, alors tu peux évidemment parer au bouclier, ce que tu fais la plupart du temps, mais ils ont rendu le système d'esquive et de roulade beaucoup plus fluide et rapide, ce qui fait que tu t'en sors plus. Globalement, je trouve que l'énergie, t'as un peu plus d'énergie. Enfin, ils ont fait en sorte que voilà. Derrière, après, faut pas non plus croire que c'est devenu facile. C'est-à-dire que, enfin, je me répète, hein, mais voilà, ça reste un jeu exigeant, mais c'est pas un jeu injuste. C'est pas un jeu injuste. Et moi qui à la base ai toujours détesté les jeux trop difficiles qui me découragent, là, je prends un vrai plaisir parce que déjà j'accepte les règles du jeu. Je sais que quand je meurs, quand je vais mourir, tous les monstres vont réapparaître et je vais devoir me retaper une partie du chemin. Mais c'est pas grave, faut accepter le truc. Et voilà, donc moi je conseille cet épisode parce qu'en termes d'univers, je trouve il est fantastique. Bloodborne, j'adore Bloodborne, hein, mais celui-là, il reprend à la fois la fantasy médiévale qu'on aime, plus un côté horrifique. Je trouve qu'il fonctionne de manière vraiment parfaite, quoi. Et il y a un côté RPG plus prononcé que Bloodborne également. Donc voilà.
D'accord. Bah écoute,
j'espère
ça m'a l'air d'être
ta question.
Oui, tu bah autant qu'on le peut. Mais en tout cas
on en a parlé entre nous dans les EQSD et puis clairement tous ceux qui ont joué pour le moment on sait que ça va finir dans notre top 3 2016 hein, même si l'année est pas finie, il y a quand même de chance.
Ouais, bah je crois que effectivement c'est sans doute le jeu depuis le début de l'année où j'ai entendu que des trucs positifs. J'ai entendu personne dire, ni des anciens qui auraient pu être déçus, hein, c'est tellement facile d'être déçu par un nouveau, soit parce qu'il se répète, soit parce qu'il change trop, mais ni des anciens ni des nouveaux venus, j'ai entendu personne me dire ah non, il est pas bien, il est raté, il est plus mou, tout le monde a l'air content, donc voilà,
exactement.
Si vous pensez que vous pourriez être intéressé, c'est peut-être celui à tester.
Exactement.
Quelques petites news pour finir. On a une date de sortie pour Final Fantasy XV, enfin, le 30 septembre. Et il y a aussi, d'ailleurs, entre parenthèses, il y aura des animés et des films en images de synthèse qui vont accompagner la sortie du truc. Donc, il y aura de quoi à boire et à manger pour découvrir l'univers. Et il y a aussi une démo qui est disponible sur PlayStation 4 et sur Xbox One. C'est une démo très courte, hein, qui fait un quart d'heure, dont certains disaient qu'elle était surprenante parce qu'elle n'a rien à voir avec la démo qui était disponible avec je me souviens plus de quel jeu, quel Final Fantasy c'était.
Type Zero, non, c'est pas un truc.
Oui,
comme
c'est ça,
non,
c'est ça, c'est Type Zero, ouais. Mais bon, bref, c'était la démo de Final Fantasy XV qui était disponible et ils disent ça n'a rien à voir et à la limite ça montre pas vraiment ce qu'est le jeu final. Mais bon, en tout cas, vous pouvez aller moi je l'ai downloadé, j'ai pas eu le temps d'y jouer avant de partir, donc voilà. Voilà, Final Fantasy.
Moi, j'ai quand même très peur pour ça. Alors, pas forcément en termes de qualité, on peut pas savoir, mais en termes de succès et de ce que ça coûte à Square Enix, parce que je crois que c'est le créateur, Tabata, je crois, je dis pas de conneries, qui a dit quand même qu'il fallait vendre, qu'il vende 15 millions d'exemplaires pour pouvoir être rentable, pour que ce soit considéré comme un succès. 15 millions pour un FF, c'est gigantesque. Je crois que c'était Oscar Le Maire qui dit ça sur Twitter, que 15 millions, c'est à peu près les chiffres des meilleurs épisodes, type le 7. FF7 quoi. Donc
ouais, je sais plus si c'était 15 millions mais effectivement c'était un chiffre hallucinant,
c'était un très bon chiffre. Et ouais. Et donc je pense qu'ils sont pas totalement rassurés, c'est pour ça qu'ils en font des tonnes, qu'ils sortent des trucs d'animation, des ils essaient vraiment parce que la hype autour de FF, elle est plus là auprès du grand public. Donc moi j'ai sincèrement peur pour le succès de cet épisode quoi.
Bah c'est un petit peu le problème quoi pour Final Fantasy effectivement. T'as raison, on n'est plus à la grande époque, bah, qui a quand même, quoi, 15 ans maintenant, des gros succès de Final Fantasy, 15-20 ans. Et le truc, à vrai dire, ça, on peut le voir comme une force, on peut se dire c'est un terreau fertile sur lequel ils peuvent faire pousser des plantes merveilleuses, tu vois. Mais le problème, c'est que les premières impressions ont pas l'air de dire « oui, ça va ramener du monde, oui, ça va activer le facteur nostalgie ». Et je suis sûr qu'ils vont en vendre quelques millions, ça, il n'y a pas de doute.
Oui,
mais
oui.
Est-ce que ça va être un succès comparable à ceux de l'époque? Ça, je suis moins convaincu. Mais...
ça me paraît difficile, hein. Enfin, je veux dire, depuis l'épisode, enfin, il y a eu le 10, voilà, qui a eu gros succès. Après, à partir du bon, le 11, c'était du online. Et puis, le 12, le 13, se sont vendus moins bien.
Ah, bah, c'est sûr, oui. Enfin, voilà. Le 14 online encore. Et puis, voilà, quoi.
Oui, c'est sûr.
Bon, bah, on verra.
C'est un jeu qui a dû coûter tellement cher parce que ça fait, enfin, tu te souviens qu'à la base, c'était quand même censé être Final Fantasy versus 13, quoi.
C'est ça.
Il y a quasiment 10 ans, quoi. Donc, t'imagines.
Bah oui, donc, mais oui, mais à ce moment-là, c'est même plus quantifiable, tu vois. Ça fait tellement longtemps. Voilà. C'était un projet qui a été renommé, repensé, reimaginé, retout. Mais exactement. Bon, visiblement, il y a une voiture volante à la fin, donc, ça va.
Ah, bah, tout va bien.
Oui. La Noctis Mobile s'envole. Petite news rapide pour dire que Rovio, le développeur d'Angry Birds, est déficitaire en 2015. Et c'est un petit peu un géant du mobile, non pas qu'il tombe, parce que ça va, ils vont encore bien, mais c'était le premier gros succès du mobile. Et moi, ça m'interpelle parce que j'ai toujours pensé que Rovio était un succès, non pas parce qu'ils avaient un excellent jeu et qu'ils savaient faire du bon gameplay, mais parce qu'ils étaient là au bon moment. Et oui, le jeu est marrant, mais enfin sans plus. Et c'est comme tous, la plupart de ces gros succès mobiles, on n'a pas de vraie qualité de cœur de gameplay, à part peut-être chez, je sais pas, certains développeurs comme Supercell, qui allie gameplay vraiment fouillé et poussé et une sorte de monétisation free-to-play absolument démoniaque. Mais parmi les autres développeurs, même si on va voir chez King, qui fait beaucoup d'argent et qui a été racheté par Activision, on s'en souvient, c'est pas vraiment, enfin, on n'a pas des développeurs qui soient des génies du gameplay, quoi. Donc, voilà, Rovio est déficitaire cette année. Ils ont jamais su se renouveler depuis Angry Birds. Il y a aucun autre gros titre. D'ailleurs, ils en ont sorti quasiment aucun. Il y avait un jeu de cartes. Il y a Amazing Alex, mais tous les autres, c'était et d'ailleurs, ils ont pas eu beaucoup de succès. Et tous les autres, c'était que des nouvelles versions d'Angry Birds. Angry Birds en vacances, Angry Birds à la plage, Angry Birds voilà, c'est ça exactement. Donc bon.
Ouais, voilà. c'est typiquement ce genre de boîte qui effectivement, comme tu dis, se sont posées sur un immense succès, qu'on n'a pas réussi à le réitérer. Et effectivement, Supercell, c'est l'exemple un peu du studio qui arrive quand même à faire des jeux intéressants. Regarde le Clash Royale qui, même auprès des hardcore gamers, fonctionne hyper bien. Et en même temps, bah, avec la monétisation, fonctionne. Alors que par exemple King à l'opposé, eux ça fait 5 ans qu'ils déclinent Candy Crush Saga tout le testos. Pour le moment ça fonctionne, mais ils créent juste de l'addiction en fait. Voilà, pour moi c'est pas du jeu vidéo. Enfin c'est pas du jeu vidéo. Je suis méchante, c'est peut-être réducteur de dire ça, mais c'est avant tout un passe-temps addictif ces jeux-là. Enfin je parle de Candy Crush etc.
Bah, c'est sûr qu'il y a pas.
Mais pour combien de temps encore?
Bah, disons que à la limite, s'il y a un jeu comme ça dans la boîte, ça va. Mais après, il faut décliner le truc. Enfin, pas décliner le truc, pardon. Réitérer le succès avec d'autres jeux. Et sinon, ouais, ça veut dire que ta boîte a peut-être été là au bon moment et avec le bon produit au bon moment, mais que c'est pas forcément les qualités du produit qui ont fait son succès. Des jeux comme Candy Crush, il y en a 13 à la douzaine. Alors celui-là, il est peut-être particulièrement bien foutu, mais c'est pas non plus une inventivité incroyable dans le gameplay. Donc bon, voilà, c'est intéressant de voir que Rovio, malgré ces débauches de marketing autour de Angry Birds qu'on voyait absolument partout pendant un moment, ça a fait 5 ans peut-être, même plus, là ça commence à s'épuiser. Donc peut-être, espérons qu'ils réussissent à se renouveler. Oui. Par contre, un truc intéressant, c'est que Capcom a déclaré très solennellement vouloir se mettre aux jeux mobiles de manière un petit peu plus sérieuse. Et ça me fait un petit peu chaud au cœur, parce que après, il y a Blizzard qui a fait un jeu mobile qui est bon, c'est Hearthstone, mais il est vraiment du côté des jeux de gamers, Hearthstone, plus du côté des jeux que des jeux mobiles, mais il y a Nintendo qui s'y met, on s'en souvient, c'est difficile de l'oublier, et puis Capcom maintenant qui s'y met aussi. J'ai l'impression qu'il y a des développeurs, des vrais développeurs historiques de jeux vidéo qui commencent à s'intéresser au mobile, et peut-être que ça voudra dire qu'enfin, on aura des expériences de jeux mobiles qui seront plus orientées pour les gamers que pour les le passe-temps, parce qu'aujourd'hui, il faut l'avouer, c'est quand même beaucoup plus du passe-temps. Donc peut-être un espoir permis avec Capcom, même si Capcom, ils sont pas non plus les derniers à aller du côté de l'opportunité facile.
Décliner leur licence, ça, ils savent faire.
Oui, c'est certain.
Pas un souci, mais oui, c'est sûr. Après, il y a toujours ce même problème, c'est que sur mobile, les gens n'ont pas envie de payer. Enfin, n'ont pas envie de payer leur jeu. Après, sauf qu'ils se retrouvent piégés dans un free to play où ils vont se retrouver coincés et qu'ils veulent continuer à jouer de manière agréable, il faut qu'ils payent. Mais le frein à l'achat d'un jeu qui est vendu 1, 2, 3, 4 euros, il est réel, quoi. Donc il faut arriver à concilier jeu hyper gamer, hyper gamer et gratuit, ce qui est quand même pas si évident que ça, genre. Même s'il y en a qui arrivent très bien, mais bon.
Non, mais moi je pense qu'il y a une possibilité d'avoir un jeu, si tu fais un jeu pour gamer sur mobile, eux peut-être qu'ils seront prêts à payer 4, 5, 10 euros, tu vois. Mais il faut que ça soit un vrai jeu de gamer. Alors ouais, bien sûr, tu vas pas toucher l'immense public et l'immense panel des gens qui jouent à Candy Crush, c'est clair, parce que tout le monde joue à Candy Crush. Enfin, quand tu vois les chiffres, c'est hallucinant, c'est des centaines de millions de personnes. Mmh. Donc oui, tu toucheras pas autant de monde. Mais par contre, peut-être que tu peux toucher 2, 3, 4 millions de gamers qui vont te filer 10 balles ou 5 balles. T'as quand même un petit peu rentabilisé ton truc, tu vois.
Imagine une espèce de Monster Hunter smartphone payant, mais en même temps presque aussi riche que les versions mobiles, par exemple, tu vois.
Ouais. Par exemple, en même temps, ça, j'imagine que, enfin, je sais pas, ça sera difficile de résister aux sirènes de l'achat in-app. Mais en même temps, il y en a.
C'est l'exemple parfait.
Ouais, ouais, c'est clair. Mais il y en a maintenant des achats in-app dans tous les jeux, même ceux que tu payes. Donc, c'est pas forcément incompatible. Si c'est bien fait, c'est pas forcément incompatible. Donc.
Ouais, c'est vrai.
Bon. Quelques petites annonces de sortie ou de jeux à venir. Orcs Must Die Unchained, dont la bêta a commencé. Je sais pas si tu te souviens de ce jeu Orcs Must Die qui avait fait beaucoup de bruit à l'époque de sa sortie.
C'était cool. Enfin, les premiers étaient super.
Ouais, on a eu le premier était vachement bien, le 2 était sympa.
Ouais, c'était la même chose le 2. Hein.
Là, c'est une version gratuite qui est disponible gratuitement. Ouais. Pour ceux qui se souviennent pas, c'était un tower defense en vue à la troisième personne, qui était hyper marrant, hyper bien foutu. Et j'ai testé un tout petit peu la version Unchained, qui a plusieurs types de personnages, etc.
Unchained, on est plus sur une sorte de MOBA, non?
Ouais, alors il y a effectivement une partie.
Dans les mécaniques de ce que j'en avais vu.
Ouais. Il y a une partie MOBA et une partie vraiment Tower Defense. Donc c'est une sorte de mélange dont on verra ce que ça donne au fur et à mesure. J'ai vraiment joué un tout petit peu, mais je voulais le mentionner parce que c'est Robot Entertainment, si je ne m'abuse.
Ouais, c'est ça.
Et tu vois, Robot Entertainment, c'est aussi une autre boîte que je trouve hyper, hyper dynamique et hyper bien foutue. Robot Entertainment, ils ont fait notamment Orcs Must Die, mais aussi Hero Academy sur mobile, qui est l'un des meilleurs jeux mobiles auxquels j'ai joué depuis que je joue aux jeux mobiles, quoi. Hero Academy, c'était un jeu excellent, stratégique, bien pensé, intelligent, bien monétisé, qui m'a occupé pendant, je sais pas, peut-être 6 mois, un an. J'ai adoré ce jeu et Robot Entertainment, ils sont très très bien, donc voilà, je voulais en parler également. Orcs Must Die, c'est un bon petit jeu.
Ouais, Juste, tiens, en direct, je viens de voir que Shuhei Yoshida, c'est donc le président de Sony Studio, vient de recevoir son Vive. Il a posté une photo tout content. Je trouve ça rigolo parce qu'il est plutôt cool de sa part de faire ça, quoi.
Ah oui, effectivement.
Il a posté une photo avec son Vive en disant mon Vive vient d'arriver, je suis trop content. Donc c'est cool, c'est rigolo. Mais j'aime bien ce garçon, je trouve. Yoshida, c'est un mec, enfin, sur Twitter et tout, il est intéressant et en plus, on sait que c'est un vrai joueur, entre guillemets. Et c'est pas juste un mec en cravate qui signe des chèques, quoi.
C'est vrai, ouais, tout à fait.
Voilà.
Hand of Fate 2 a été confirmé pour début de l'année prochaine. C'est Defiant Development qui a annoncé le titre. Pour ceux qui s'en souviennent pas, Hand of Fate, c'est un jeu qui combine jeu de cartes et jeu d'action avec un combat à la Batman. Très très bien foutu ce jeu, un petit succès d'il y a quoi, un an et demi, quelque chose comme ça. Donc si vous avez apprécié le premier, ben le 2 va arriver dans un petit peu moins d'un an normalement, à peu près un an. Et enfin, on disait la dernière fois que Fable Legend avait été abandonné avec la fermeture de Lionhead par Microsoft, Lionhead Studios. Visiblement, il serait possible que Fable Legends soit repris par les développeurs. On ne sait pas encore, mais c'est possible. Il serait en discussion.
En fait, d'après ce que j'ai compris, hein, Microsoft aurait proposé aux développeurs de créer une structure indépendante pour terminer le jeu. Donc, comment est-ce que Microsoft leur file quand même un peu de thunes pour le terminer? J'en sais rien. Après, je sais pas si les gars ont très envie, quoi. Enfin, après, j'imagine que si, quand t'as bossé des années sur un jeu, voilà, t'as envie de le finir, mais c'est quand même bizarre cette histoire, quoi. Tu sais pas. En fait, ce que je comprends pas, c'est pourquoi est-ce qu'ils ont pas laissé. Ça se trouve, parce que le jeu il est quasiment terminé. En plus. Là. Donc pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas laissé Lionhead terminer leur jeu et quitte à fermer boutique après? Enfin, c'est n'importe quoi.
Ouais, c'est bizarre. Moi, la seule chose que je puisse imaginer, c'est qu'ils estimaient que le jeu était pas très bon et donc ils voulaient arrêter, tu vois, arrêter les pots cassés, comme on dit dans bon français. Et et peut-être que des employés.
T'es en train de faire du framponnet, la fait gaffe.
C'est ça, ouais, exactement. donc ils ont voulu arrêter les pots cassés et des gens de Lionhead sont allés les voir en disant laissez-nous le finir. On a l'IP qui va servir à rien, le jeu, je sais pas, mais bon, bah, ça se trouve ça va rien donner aussi, hein, c'est possible.
Ouais. C'est ça.
Enfin voilà, bah écoutez, c'est voilà. La fin de cet épisode. On a couvert un petit peu toutes les news qu'on voulait couvrir. Je sais pas s'il y a quelque chose en plus dont tu voulais parler ou si on est bon.
Non, écoute, non là dans les jeux que je joue, bah Dark Souls. De toute façon, je passe mon temps sur Dark Souls. La VR, c'est bon. Là, je pense que là, une fois qu'on aura raccroché, je vais passer 6 heures dans la matrice. Donc voilà.
D'accord, très bien.
Mais non, en plus faut que je sorte le test pour le milieu de la semaine. Donc j'ai du boulot, quoi. Non, rien de spécial.
D'accord, bah écoute, plutôt que de nous parler encore de jeux dont personne n'a rien à faire, parle-nous plutôt de trucs super intéressants, comme les endroits où on peut te retrouver, et toi, JK.
Ouais, donc sur Twitter @JKLauret, JKLauret, bien sûr. Donc également sur lesnumériques.com pour des tests et des articles en rapport avec la technologie plutôt, dont le test du Oculus Rift qui paraîtra à la fin de la semaine. Je fais un petit peu de pub, hein, comme ça au passage. Et puis bien sûr sur ZQSD, le fameux podcast, on va dire, de jeux vidéo PC. Le dernier numéro a été enregistré la semaine dernière. On y parle notamment, on fait un dossier sur justement en rapport avec l'annulation de Fable Legend. On fait un dossier sur les jeux abandonnés. On parle de plein de projets de jeux qui n'ont jamais vu le jour. On parle de Dark Souls 3, évidemment, également. On parle de The Division aussi. Et le podcast devrait arriver, bah, je pense, dans les jours à venir, le temps que le bon Oupi fasse le montage.
Très bien, très bien. Eh bien, donc, c'est ZQSD, évidemment. Pour ma part, c'est NotPatrick sur Twitter et sur Facebook. Si vous voulez suivre mes aventures nippones, vous pouvez le faire là-bas. Je suis sur Instagram aussi. J'ai posté quelques photos de cerisiers en fleurs dont vous me direz des nouvelles.
J'ai vu les photos. Et pareil, j'ai vu les photos que poste ta femme sur Twitter qui sont très belles.
Oui, n'est-ce pas? T'as vu, c'est les photos sont très belles, les cerisiers sont très beaux. Moi, j'étais hyper content d'avoir la chance d'être là au bon moment.
C'est magique, quoi.
Mm-hmm. Ouais, c'est une semaine et c'est magique, quoi. Ouais, c'est le mot. Donc voilà, tout ça, c'est sur Twitter et sur Facebook et sur Instagram, NotPatrick partout. Et bien sûr, vous pouvez retrouver cette émission, venir commenter sur FrenchSpin.fr et vous pouvez aussi retrouver sur FrenchSpin.fr d'autres émissions qui vous plairont peut-être. On vous remercie de nous avoir écoutés. écouté et on vous donne rendez-vous au prochain épisode. Ciao à tous.
Salut.